Bonsoir, une assistance de qualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente Jacques Hatton. Je préside les amis de l'Institut d'art contemporain à Lyon. Et dans le cadre des activités des amis de l'Institut d'art contemporain, nous avons institué un cycle de rencontres que nous appelons les rencontres de l'art, où nous interviewons différents acteurs du marché de l'art, ou des artistes, des commissaires-priseurs, tout ce qui intéresse le marché de l'art. Alors, dans le cadre de Doc Arfer, et nous remercions l'organisation de Doc Arfer de nous accueillir en partenariat avec Doc pour cette conférence, nous souhaitions organiser une discussion, une rencontre sur la crise du marché de l'art, entre guillemets, est-il vraiment une crise ou non, et un an après le début de la crise dite économique, y a-t-il un retentissement sur le marché de l'art? Alors, pour débattre de tout cela, d'abord, je remercie Philippe Régnier, directeur de la rédaction de la Gazette des Arts, qui remplace Roxane Azimi, qui est spécialiste du marché de l'art dans la Gazette. Pour des raisons familiales et personnelles assez graves. Et puis les différents intervenants, avec de gauche à droite, Georges-Philippe Vanois, Nadia Candé, Laurent Godin, donc à la fois des galéristes, mais aussi des collectionneurs, Nadia Candé qu'on connaît pour son beau livre qui est sorti l'année dernière, etc. Sur les collections et les commandes des collectionneurs privés, si j'ai bonne mémoire. Bruno Henri, qui est collectionneur, et Antoine de Galbert, qui est multicarte, c'est-à-dire qu'il est collègue marchand, il est surtout un collectionneur, et il est celui qui a créé la fondation de la Maison Rouge à Paris, une institution qui est vraiment tout à fait pour les collectionneurs que nous sommes, une institution que nous aimons fréquenter. Alors, cette crise du marché de l'art existe-t-elle? On a vu différents articles dans la presse du mois de juin, du mois de juillet, que ce soit Le Monde, Philippe Dagen, ou dans Les Échos, y a-t-il vraiment une crise? Lorsqu'on discute avec les galeristes, certains nous disent « j'ai jamais aussi bien travaillé qu'aujourd'hui ». Les collectionneurs reviennent, enfin des vrais collectionneurs, pour ne pas parler des spéculateurs de l'art. Qu'en est-il exactement, Philippe Régnier? Vous allez diriger le débat et introduire cette discussion. Et puis, je pense que après l'intervention de chacun des intervenants de la table ronde, nous pourrons discuter librement dans la salle et poser toutes les questions ou faire toutes les interventions que nous souhaitons. Est-ce qu'on se fixe une minute pour arrêter le débat? D'accord, tant qu'on ne met pas dehors, qu'on ne met pas des tables, les chaises sur la table, ça veut dire qu'on peut rester ici. Très bien, parfait. Philippe Régnier, à vous.
Merci. Avant de commencer, je voudrais effectivement excuser Roxane Azimi, qui est frappée aujourd'hui par un deuil et qui aurait effectivement voulu animer ce débat, et je la remplace dans ces circonstances. Parler de la crise, est-ce que la crise frappe le marché de l'art? Il faudrait, je pense, refaire une chronologie en fait des événements qui sont passés depuis un an, avec, on se souvient, la faillite de la banque Lehman Brothers à New York, qui a eu une répercussion effectivement sur le marché de l'art assez rapidement. Même si le lendemain en fait, de cette faillite, les 14 et 15 septembre de l'année dernière, il y avait cette vente importante, on se souvient de la vente d'Amien Hirst à Londres, chez Sotheby's, qui pour beaucoup était l'un des effets de cet emballement du marché de l'art, avec la volonté d'un artiste de présenter directement aux enchères ses œuvres, sa production de l'année, sans passer par ces galeries habituelles. Alors la crise, oui, elle a eu une répercussion sur le marché. On l'a vu assez vite sur la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les ventes aux enchères, avec effectivement des ventes qui se sont moins bien remplies, avec des œuvres aussi qui ont baissé de prix, des côtés maintenant par rapport au travail qu'effectue au quotidien Philippe Segalo. Alors, à contrario, il y a des artistes qui sont intervenus contre ce phénomène d'emballement et de production maximum, comme Maurizio Cattelan, par exemple, qui a assez peu produit dans cette période d'euphorie entre, disons, 2005 et 2008. Donc il a peu produit, même si en même temps ses œuvres en fait ont énormément exposé en vente publique, et en réalité elles ont fait l'objet de spéculations, mais de spéculations dont l'artiste lui-même n'était pas maître. Alors ce même Maurizio Cattelan, je ne sais pas si vous l'avez lu ce week-end dans Libération, il était interviewé par Henri-François de Bayeux et il revenait justement sur cette crise et sur son impact sur l'art et sur son marché. Et Cattelan disait « Jamais une crise n'a été aussi bienvenue. Il y a déjà des retombées positives avec de nouvelles galeries qui ont ouvert, pleines d'énergie, pas prétentieuses, avec des gens jeunes. Après de fortes pluies, on commence à voir pousser des champignons partout. En même temps, il est probable que cette crise elle-même élimine une certaine pollution qui bloquait notre système respiratoire. C'est une grande leçon, même si pour certains, cela risque d'être difficile. » Alors, Cattelan pense effectivement qu'il y a une évolution, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, mais je voudrais faire un parallèle simplement entre le marché de l'art et le marché et l'économie réelle, classique. C'est vrai que depuis un certain nombre de temps, on parle de moralisation de la finance, de moralisation des banques, mais finalement, au fil du temps, on se rend compte que ce sont de grands discours, mais que dans la réalité, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, est-ce que c'est la même chose dans le marché? Nos intervenants vont essayer d'y répondre aujourd'hui. Je voudrais premièrement commencer par poser une question, parce qu'on parle d'emballement, on parle de surenchère ou du marché durant cette période entre 2003-2008. Mais qu'en était-il vraiment? Quelles ont été les choses les plus déroutantes pour nos intervenants? Alors, je vais commencer à mon extrême gauche avec Antoine de Galbert. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ces années, en fait, de spéculation, entre guillemets?
Vous m'entendez? Oui. Moi, je pense qu'il y a quand même une chose à dire. D'abord, c'est qu'il n'y a pas un marché de l'art. Il faut lire les Raymond Moulin, tous ces gens-là. Il y en a en tout cas deux. Il y en a un qui est organisé sur le phénomène de rareté, et ce marché-là n'est jamais en crise réellement. Et puis il y en a un qui est organisé sur la multiplicité de l'œuvre, et c'est ce marché-là dont on parle. C'est un marché qui est au même titre que le marché financier qui est touché. Voilà. La question de l'emballement du marché, de toute façon, moi j'essaye d'acheter assez tôt. Bon, de temps en temps, voilà, je vois qu'il y a des amis galeristes qui me vendent des choses trop chères, évidemment, mais en règle générale, je ne suis pas concerné, moi, par le marché financier de l'art. Je ne suis pas non plus spécialiste, alors je suis venu par un métier, mais le marché m'intéresse uniquement quand j'ai envie d'acheter, pour savoir si je peux ou non acheter une œuvre, c'est tout. Mais je me fous complètement de savoir si les œuvres que j'ai ont pris de la valeur ou pas. Certaines en prennent, d'autres non.
Et est-ce que vous avez constaté une baisse de qualité dans la production des artistes qui étaient poussés à produire?
Ce n'est pas une baisse de qualité, mais quand Damien Hirst produit ses petits pois pendant 10 ans, et que plus il en produit, plus ça se vend et plus c'est cher, c'est une réflexion plutôt sur la culture et sur un problème sociologique. Qui achète Damien Hirst et qui achète un jeune artiste qui est intéressant? Donc la crise, elle touche les gens qui ont... c'est un peu l'art facile avec l'argent facile, tout simplement, c'est pas compliqué. Et ce marché-là, c'est ce marché-là qui est vraiment touché.
Bruno Henry, selon vous, quels ont été les éléments marquants de cet emballement?
Mais c'est vrai qu'en France, les collectionneurs ne sont pas dans cette dynamique. Les collectionneurs en France, et les galeries aussi, sont des gens qui s'intéressent à l'art, aux artistes. Donc les spéculateurs, comme le disait Antoine, ont disparu, mais en France, il n'y en a pas beaucoup. Et la scène artistique française est peu spéculative. Et c'est une chance. chance pour nos artistes, parce que comme ils n'ont pas des niveaux de prix importants, ils n'ont pas vu de baisse notable, et ils vont pouvoir justement accéder à un marché international parce qu'ils ont, ils ont des prix attractifs. Je crois que c'est une chance pour la scène artistique française, parce qu'il suffit de se balader un petit peu aussi bien à Venise qu'à Bâle, et on n'a pas à rougir notre scène.
Laurent Gonin, qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée de la crise pour votre activité, par exemple? Est-ce qu'il y a moins de collectionneurs, effectivement? Est-ce qu'ils sont plus exigeants? Est-ce que c'est plus compliqué pour les artistes,
hein? En fait, il me semble que la crise, d'abord, il faut définir ce mot, et qu'elle a commencé bien avant. L'hyper-spéculation qui a pu se produire depuis 5-6 ans, c'était déjà une situation de crise. Finalement, l'éclatement qui se produit depuis un an, c'est la fin du processus. Donc, nous, encore une fois, ce que disait Antoine est très juste, ce que dit Bruno est très juste, il y a vraiment des strates de marché très différentes. Moi, je n'ai jamais vu des gens faire la queue dans la galerie pour acheter les artistes. Je n'ai jamais été concerné par l'hyper-spéculation dont les journaux nous abreuvent. Je ne crois pas que Georges Philippe ait affaire non plus à des situations telles. Il y a vraiment un effet qui est lié à un système d'information. On le constate tous les jours avec des choses très différentes. Des effets comme ça d'intoxication quasiment. Et il y a des strates très différentes.
Jean-Philippe, justement, est-ce que la spéculation a touché la galerie?
Je crois que, pour revenir à ce que disait Laurent, effectivement, la crise, c'est ce qu'on a vécu dans cette période euphorique absolument folle. Et finalement, on est rentré dans un système où le produit dérivé a pris la place de l'œuvre proprement dite. C'est-à-dire qu'on avait quelques potentats, des collectionneurs majeurs, qui achetaient des œuvres. Et là où autrefois le critère de rareté jouait, on avait une masse de gens qui se jetaient sur et qui voulaient posséder les mêmes choses que les quelques potentats économiques du milieu artistique possédaient. Donc les artistes ont été poussés dans une production de produits dérivés pour alimenter le marché des ventes publiques de plus en plus fort et qui, d'une certaine façon, a totalement fait disparaître une forme de pensée. On s'est aperçu rapidement que les grandes expositions internationales devenaient finalement, entre guillemets, des suppôts des grandes ventes publiques, que finalement, là où on avait autrefois un commissaire d'exposition, un critique d'art qui arrivait et qui conseillait, aujourd'hui on avait des gens qui étaient des grands courtiers internationaux et qui étaient capables d'expliquer que ça allait gagner 30%, mais absolument pas le contenu de l'œuvre. Et je reviens à ce que disait Laurent, la crise, elle était beaucoup plus là, à mon avis. Aujourd'hui, où effectivement on a un nivellement des valeurs, je pense effectivement qu'il peut être favorable à la scène française, puisque celle-ci est moins spéculative. On peut parler aujourd'hui des œuvres sans se voir répondre que effectivement tel ou tel artiste français ne prendra pas le pourcentage qu'aurait pris tel autre anglais, allemand, américain, peu importe. Donc aujourd'hui, avec un petit peu de chance, les galeries françaises vont être de nouveau en mesure de parler avec leurs homologues outre-Atlantique ou outre-Manche, de nouveau pouvoir, comme c'était le cas il y a quelques années, exposer des artistes majeurs sans qu'on leur réponde « votre marché français ne sert à rien ». Ce qui veut dire que, in fine, peut-être qu'on est en face d'un mouvement qui pour nous sera positif, qui va amener nos galeries à reconquérir une place qu'elles avaient perdue sur le plan international, tant par la perte d'artistes que par la perte malheureusement de parts de marché, puisqu'elles sont de moins en moins nombreuses sur les grandes foires. Donc j'accueille cette crise avec bien sûr une certaine peur, on ne sait pas tout à fait ce qu'on va traverser, mais aussi avec beaucoup d'espoir et en me disant que par rapport à celle que j'ai connue dans les années 90, nous ne sommes pas dans un arrêt brutal. On n'a pas des galeries totalement endettées au bord de la faillite. On n'a pas des collectionneurs qui ne veulent plus entendre parler d'art. On n'a pas une réaction obtuse. On a une réévaluation et peut-être un regard plus pertinent.
Et comment se manifeste justement cette crise pour la galerie, par exemple?
Pour l'instant, elle se manifeste par une finalement relativement légère baisse du chiffre d'affaires, mais il ne faut pas le nier, elle existe.
De quel ordre, hein?
Vingtaine de pourcents. Voilà. Mais en revanche, avec des signes avant-coureurs extrêmement positifs et qui me font penser que cela n'est que temporaire, on a par exemple un retour.
création intellectuelle. En particulier, quand j'ai abordé le sujet de la commande, je n'ai jamais posé la question de prix aux collectionneurs. Et le collectionneur, j'ai rencontré des collectionneurs qui sont vraiment des coureurs de fond en France. Et donc, un coureur de fond travaille sur du long terme. Et à chaque fois, ça a été des questionnements. Et donc, je ne me sens pas très touchée par les chiffres, d'ailleurs, quand dans les journaux, on me fait des comptes rendus de foires avec des chiffres. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est de parler d'art et non de parler du marché. Donc, c'est vrai que je me sens un petit peu en marge par rapport à ça. Et dans collection particulière, à aucun moment, on parle chiffres, même s'il y a une réalité à un moment.
Alors, justement, tout à l'heure, Antoine de Galbert parlait de Raymond Moulin. Raymond Moulin citait il y a quelques mois l'exemple de l'année 1929. Après la crise, en fait, il y avait eu énormément de grandes collections qui se sont constituées parce que les moments de crise sont des moments où effectivement pour les collectionneurs c'est le meilleur moment pour acheter. Est-ce que pour vous ressentez aussi ça, quelques opportunités que vous n'auriez pas eues auparavant?
Oui, il y a des choses dont on observe dans les catalogues de vente, des opportunités sur des artistes, c'est clair. Et ce qui se passe, c'est que par rapport à la crise des années 90, où il y avait des collectionneurs qui empruntaient pour acheter. Là, cette fois-ci, on a eu quand même une crise, je trouve, assez saine, où les collectionneurs achetaient avec leur propre argent, avec les bonus qu'ils gagnaient en banque. Donc, ce n'est pas du tout pareil. L'argent, ils ne l'ont pas emprunté, il n'y a pas eu d'endettement par rapport à ça. Donc, moi, je trouve qu'on vit plutôt une période saine.
Antoine de Galbert, vous avez des opportunités aussi que vous n'auriez pas eu en dehors de la crise?
Non, moi j'ai pas du tout remarqué que les prix baissaient. Mais j'ai une anecdote, là, moi je suis aussi beaucoup dans l'art ethnographique ou primitif, et il faut quand même dire une chose, c'est qu'il y a une liaison directe entre la finance et l'art, et il y a beaucoup de gens qui ont perdu entre 30 à 50%, donc le marché est réel quand même, il y a une crise psychologique des... Par exemple, un médecin comme Bruno, lui, a toujours le même salaire, j'imagine.
Vous voulez dire que
il n'est pas touché par une crise financière, mais psychologiquement, il a pu être touché, il a pu se dire « Merde, tout s'effondre, j'arrête d'acheter ». En fait, il y a dans ce processus spéculatif, il y a aussi un processus spéculatif psychologique de gens qui sont inquiets et qui pendant 6 mois ou 1 an, n'achètent plus.
Des collectionneurs qui ont perdu en fait des capitaux.
Non, mais tout simplement. Alors moi j'ai perdu 50% en 6 mois. Et alors un jour, je rentre dans une galerie pour un objet primitif, magnifique, qui me faisait baver l'envie. Et je dis à la marchande, écoute, voilà, moi je viens de perdre 50% en 3 ou 4 mois. Alors toi, il faut que ton prix baisse de 50%. Et elle m'a dit, d'accord. Et donc j'étais obligé de l'acheter. Mais... il y avait une certaine cohérence. Alors, le problème dans l'art vivant, de gens qui travaillent avec des artistes vivants qui ont une cote, puisque si vous avez acheté une œuvre de tel artiste et que vous la revoyez 50% moins cher 3 mois après, le pauvre marchand se fait tirer dessus. Donc ils peuvent pas, ce ne sont pas des antiquaires, ce sont des gens qui bâtissent la notoriété d'une œuvre avec un artiste vivant et tout n'est pas permis. Et donc le problème grave qu'ils ont eu et qu'ils ont encore quelques-uns, c'est qu'ils ne peuvent pas baisser leur prix. Vous ne pouvez pas baisser un prix quand vous avez une galerie en l'espace de 6 mois, ce n'est pas une commode Louis XVI, donc c'est un peu compliqué.
Bruno Henry, votre témoignage sur vos opportunités par rapport à la crise et la baisse des prix?
Moi, la crise, les gens sont plus malades avec la crise. Hein, donc, la crise. Non, je pense que, encore une fois, en France, au niveau de la crise financière, la France a été moins touchée parce que les banquiers ont été moins fous, parce que les gens ne sont pas endettés avec des emprunts à taux variable. La crise touche tout le monde, certes, mais l'Europe moins que les États-Unis et la France moins que le reste de l'Europe. Et encore une fois, nos galeries sont des gens sérieux. Les artistes de la scène française n'ont pas des prix débiles. Et ce qui nous gênait, parce que les petits collectionneurs, il y a un plafond qui ne dépasse pas. Et quand je pense à Yann Penlin, par exemple, que j'aime bien. C'est pas compliqué, il devait me faire mon portrait il y a, c'était encore en francs, mais ça devait être en 2000-2001. Le prix à son atelier, c'était 65 000 francs, 2 mètres par 2. Ça vaut 1 million de dollars maintenant. Bon, c'est n'importe quoi. Ça n'équivaut à rien. Alors, ces gens qui ont
fait... Et vous l'avez fait, ce portrait, quoi ?
Évidemment. Parce qu'il voulait tout en espèces, je ne devrais pas dire ça ici. Et comme je ne fais pas de chirurgie plastique, c'était un chien pour rien. Il faudra censurer.
Je peux juste rajouter quelque chose quand même, parce qu'on parle de prix, de crise, etc. Il y a quand même une chose, c'est qu'à partir d'un certain niveau de prix, il me semble que c'est absurde d'acheter un jeune artiste vivant. C'est-à-dire qu'il y a quand même un manque de discernement, peut-être un manque de culture chez les jeunes, chez les nouveaux collectionneurs, un manque de bon sens. Moi-même, si j'ai 1 million d'euros, je n'achèterai jamais Yann Penlin. Jamais. Je vais acheter un primitif flamand ou je vais acheter un objet historique. Enfin, ça n'a aucun sens. Soutenir la création contemporaine, c'est pas faire n'importe quoi.
Ben ça, c'est aussi le problème des nouveaux acheteurs, en fait, qui sont intervenus sur ce marché et qui ont fait monter la cote des artistes, des gens qui étaient souvent pas de vrais collectionneurs, mais qui étaient embarqués dans une espèce de lifestyle dont l'art était une partie intégrante. On l'a vu notamment, la caricature, c'était Art Basel Miami Beach, par exemple. Laurent Codin, est-ce que vous avez dû justement baisser les prix des artistes pour...
Non, encore une fois, on est avec des prix qui nous paraissent... Enfin, on travaille avec des gens qui ont des prix qui sont très raisonnables, finalement. Donc les baisser, ça serait vraiment... c'est pas possible, c'est juste pas possible, parce qu'à un moment donné, on est...
Même pas une petite négociation
Il y a toujours eu des négociations, donc ça, c'est pas nouveau. Non, ce que disait Antoine est très juste, c'est-à-dire qu'on travaille avec des gens vivants, avec on peut pas, on n'est pas en train de brader des objets qu'on a récupérés à droite ou à gauche. On travaille avec quelque chose qui est beaucoup plus sensible et il n'est absolument pas pensable quand on est dans des dans des niveaux de prix comme ça, d'avoir ce type de raisonnement.
Je vais peut-être passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions à nos intervenants? Oui, il y en a une derrière.
Et Eric Maison, je me permettais de vous poser une question. Moi, j'observe un peu ce qui se passe dans les foires, les biennales. Je circule un peu, comme on dit. Et vous avez pris l'exemple de Yann Penlin, qui est intéressant, puisque vous disiez 65 000 francs ou 1 million d'euros. Du coup, moi, j'ai une question. Quel est le juste prix? Parce que si le juste prix n'est pas 1 million d'euros pour un collectionneur français, est-ce qu'il l'est pour un collectionneur américain, par exemple?
Ça n'a pas de sens.
C'est des niveaux de prix, ça n'a pas de sens. Quoi. Une peinture, 1 million de dollars ou 1 million, ça représente le revenu d'un Français pendant combien? 10 millions d'années? Il faut arrêter, quoi. Enfin, je sais pas, mais...
Non, puis ce que disait Antoine est vraiment important, c'est-à-dire que si vous avez... Bon, alors peut-être que les liquidités pour certains étaient telles qu'un
à ses codes, c'est ainsi. Mais ce qui fait que Ming, de ce prix-là, c'est qu'il a intégré des galeries américaines importantes et que tout d'un coup, il y a une offre qui est bien supérieure à la demande. Que ce soit fictif, c'est une chose. Que ce soit une augmentation trop rapide.
C'est l'inverse, c'est la demande qui est supérieure à l'offre.
Pardon, merci. C'est tellement peu cher en Amérique. Non, mais pour revenir à cela, on ne peut pas condamner le fait qu'un artiste, après 15 ans de boulot, puisse valoir $1 million. Moi, je pense qu'on peut plutôt condamner le fait qu'un artiste, après 15 ans de boulot, valent malheureusement ce que souvent nos artistes valent en France. Je crois que le souci qu'on doit avoir aussi, on ne peut pas se mettre tous contre la spéculation, elle existera tout le temps. Et je crois qu'il faut essayer au contraire, nous, d'intégrer nos artistes français dans des circuits plus internationaux. Je crois qu'il faut aussi, par le biais de cette crise, prendre conscience qu'on s'est un petit peu trop regardé, qu'on n'a pas exporté suffisamment, qu'on ne s'est pas donné les armes pour le faire, et que cette crise va peut-être nous permettre de le faire aujourd'hui. Mais encore une fois, moi, je dis tant mieux pour Ming. Et d'ailleurs, Bruno en parlait. Lui aurait pu l'acheter à 65 000 francs et j'aurais dit tant mieux pour toi, si tu avais pu le faire. Et après tout, tant mieux pour les gens qui achètent les œuvres très tôt, en dehors de toute préoccupation spéculative et qui, à un moment ou à un autre, sont récompensés.
Alors justement, là, on parlait de la crise. Est-ce que, finalement, comme les galeries françaises sont globalement un peu moins touchées que les galeries anglo-saxonnes ou américaines, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre qui peut être retrouvé?
Pour qu'un artiste ait une cote, il faut qu'une galerie l'ait également. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que, on va voir si ça continue, on peut de nouveau accueillir des grands artistes. Donc, normalement, si tout se passe bien, on va réintégrer, comme je disais au début de la discussion, des foires importantes, et notre situation devrait devenir internationalement plus visible. Voilà, c'est ce que j'estime aujourd'hui.
C'est pour ça aussi que les foires françaises sont plus attirantes pour les galeries étrangères.
Le son, la FIAC a indéniablement évolué dans une direction que personne ne soupçonnait. Aujourd'hui, c'est devenu une grande foire internationale. On note qu'au même moment, Frise est en train de baisser. Et qu'aujourd'hui, les gens, pour la première fois, prennent plus de billets pour venir à Paris que pour aller à Londres. C'est un événement incroyable. Il y a 5 ans, c'était insoupçonnable.
Une autre question dans la salle ?
Comme Bruno, je suis un petit collectionneur, je gagne ma vie avec mes petites mains pour soigner des malades. Donc, mais si j'écoute votre discours, auquel je souscris tout à fait, mon analyse est assez identique à la vôtre, ça veut dire, si quand on va à Venise, le mauvais exemple, c'est la pointe de la douane, parce qu'on est vraiment dans la spéculation, entre guillemets. Je suis un peu provocateur, volontairement.
Mais on est dans le marché.
Oui, non, mais quand même, il y a aussi l'exemple. Parce que quand on va se balader à la Biennale de Venise et qu'on visite côte à côte le Guggenheim et la Pointe de la Douane, alors il faut dire, et j'aimerais bien avoir votre avis, c'est non à la Pointe de la Douane, oui au Guggenheim. Antoine.
Concernant la Pointe de la Douane, je pense qu'on n'est pas dans la spéculation, on est chez quelqu'un qui fait le marché mondial aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir, c'est lui qui décide, et quand il n'en veut plus, il revend avant que ça baisse, donc c'est quelqu'un qui a un réel pouvoir, c'est pas un spéculateur. C'est un...
Les deux quand même.
C'est mieux, enfin c'est encore plus fort. Et il a tous les pouvoirs, donc c'est un spéculateur, c'est un type qui va acheter un artiste parce qu'il a entendu dire qu'il rentrait chez Gagosian, et puis qu'il va le revendre juste avant que ça se casse la gueule. Pino, c'est pas ça, c'est lui qui fait le marché. Donc c'est, par contre, ce qu'on peut condamner, c'est qu'il est. Moi, je le connais un peu, c'est un type qui a une intelligence et une sensibilité, c'est pas du tout ce qu'on entend. Mais en revanche, ce qu'on peut condamner, c'est le positionnement social, c'est-à-dire qu'il n'y ait sur un mur que des billets de banque. Et qu'il n'y ait pas. Alors, est-ce qu'il peut avoir un inconnu? Non, parce que dès qu'il achète quelqu'un, il devient connu. Il est malheureux, ce pauvre monsieur Pino, parce que. Je ne peux pas faire preuve de... C'est un peu compliqué d'être à sa place.
Oui et non, parce qu'en fait, il expose Marcel Reiss, par exemple, et les dernières œuvres de Marcel Reiss, et on ne voit pas d'explosion de la cote de Marcel Reiss sur le marché.
Il y en a plus sur des Marcel Reiss des années 60.
Hein. Non, il en expose aussi, d'ailleurs, à Dinard, des œuvres récentes.
Hein. Ouais, enfin, je sais pas, mais je trouve que... Je ne sais pas s'il est si condamnable que ça, en fait. Ça,
contrôle tout le marché, c'est un spéculateur, entre guillemets. Je caricature un peu parce qu'à partir du moment où tu contrôles les artistes, les salles des ventes et les lieux d'exposition, tu contrôles tout le marché. C'est comme dans la banque, c'est la même chose. Dans le marché des actions, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qu'a fait la faillite de Lehman Brothers, puisqu'ils contrôlaient une partie du marché et qu'ils ont orienté le marché dans une mauvaise direction.
Oui, mais il faut revenir sur le...